Chers frères et sœurs, en ce dimanche, la liturgie nous propose de méditer sur la Sainte Famille. Notre méditation sur la Sainte Famille porte en fait sur des personnages concrets. Il s'agit de Joseph, de Marie et de Jésus. Et la parole de Dieu le présente comme la Sainte Famille, en même temps comme une réalité, mais aussi comme un idéal. Une réalité, parce que quand on regarde cette famille aujourd'hui, en réalité, on dirait, sur le plan humain, simplement, c'est une famille recomposée. Ce n'est vraiment pas le modèle de famille que nous désirons aujourd'hui. La famille de Jésus, c'est une famille recomposée. Marie était donnée en mariage à Joseph. Ils n'ont pas eu le temps de célébrer ce mariage que l'ange du Seigneur lui est apparu pour lui parler du projet de Dieu. Quand elle a accepté, elle est tombée enceinte. Joseph s'apprêtait à la répudier. Et alors l'ange est venu s'interposer. Joseph a obéi. Il a pris Marie chez elle. Et finalement, il est en train d'accompagner Marie pour élever cet enfant qui est Jésus. C'est ça la réalité de cette famille. C'est une famille recomposée. Donc, du point de vue humain, ce n'est vraiment pas un modèle. Mais ce que la parole de Dieu veut nous montrer, c'est quoi? C'est que Dieu est souverain. Quand nous disons Dieu est souverain, c'est-à-dire, lui, Dieu, il peut prendre n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quoi, le sanctifier, le purifier et le donner comme modèle aux humains. Quand nous regardons, comme je le disais ce matin, la généalogie même de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre que c'est une généalogie qui est en fait composée du pur et de l'impur, de la bénédiction et de la malédiction ensemble. On voit par exemple la généalogie de Jésus à un moment donné. Il y a Ruth qui était de la descendance de Lot. Nous savons que les enfants, les deux filles de Lot ont couché avec leur père. Ils ont eu deux enfants, chacune un enfant. Et alors, ils ont eu de noms, Amman et puis Moab. Et ils ont fait deux clans, les Moabites et les Ammonites. Et ces deux clans sur le plan biblique, la parole de Dieu dit, ils ont été frappés de malédiction. Et Ruth est la descendante de Moabit. C'est-à-dire qu'elle était frappée de malédiction. D'ailleurs, dans son propre mariage, elle n'a pas eu d'enfant et son mari est décédé très jeune. Elle est restée comme ça. Voilà que quand son beau-père meurt, sa belle-mère décide de revenir à Nazareth. Et Ruth dit, je vais aller avec toi. Et en allant avec elle, et finalement, son histoire va changer. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Boaz. Et de leur union, ils vont donner naissance à Jessé, qui va être le père de David. Et la parole de Dieu dit, Dieu lui-même dit, je vais te donner le pouvoir de David. Tu vas hériter, il dit de Jésus, tu vas hériter du trône de David, ton père. Mais David est né de quoi? De Jessé. Jessé lui-même est né d'une relation entre la bénédiction, Boaz, et la malédiction, Ruth, ensemble, dans la généalogie de Jésus. Dieu seul peut accepter des choses comme ça parce qu'il est souverain. Et on nous montre, après David, dans la lignée de Jésus, il y a Salomon. Salomon qui a pris le trône. Salomon est né d'une relation adultérine. Dieu seul peut faire des choses comme ça. Introduire Salomon dans une lignée de sang pur, alors que lui-même est né dans une relation adultérine. Je suis en train de vous parler de Dieu, un Dieu souverain, qui peut se servir de n'importe quelle condition pour le purifier, la purifier, et pour la présenter maintenant comme un modèle de sanctification. Voilà pourquoi, du point de vue de Dieu, ce n'est pas un problème que cette famille reconstituée soit présentée comme une famille modèle, un idéal, pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que au-delà de cet aspect de recomposition, il y a d'abord, et ce qui plaît à Dieu, c'est cela, l'obéissance du cœur. Marie a mis en Dieu son mariage, son projet de mariage, en obéissant à Dieu. Joseph a mis en jeu sa crédibilité en obéissant à la parole de Dieu. Ils ont tous obéi. Et c'est ça qui est le plus important devant Dieu. Leur obéissance, quand Dieu leur a parlé, quand Dieu leur a donné l'ordre, ils ont obéi. Tu prendras cet enfant, tu iras en Égypte parce qu'on veut le tuer. Il a obéi. Tu vas donner le nom à cet enfant. Tu seras comme son père. Il a obéi. Il marchait dans l'obéissance, même quand il savait que cet enfant n'était pas vraiment son propre enfant. Et, ironie de sort, de quel côté Jésus devient, en fait, hérite du trône de David, du côté de Joseph. Parce que c'est Joseph qui était de la descendance de David, c'est pas Marie. C'est comme ça, ça c'est la souveraineté de Dieu. Il peut coller des choses sur le plan naturel qui ne peuvent pas tenir ensemble. Dieu seul peut le faire parce qu'il est souverain. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous introduit dans cette obéissance. Et imaginez, sur le plan humain, je suis en train de vous montrer, la parole de Dieu nous présente deux familles qui, sur le plan humain, n'ont rien à envier. C'est-à-dire qu'on n'a pas à les envier sur le plan humain. Deux familles. La première lecture nous parle de la famille de Anne. Anne, qui était la première femme d'Elkana. Et cette femme a souffert dans sa vie. Personne ne peut présenter la souffrance comme un modèle. Personne. On ne veut pas souffrir. La souffrance n'est même pas le projet de Dieu. Sinon, Dieu ne viendrait pas combattre la souffrance. Sinon, Dieu ne bénirait pas les gens pour que la souffrance disparaisse dans leur vie. Donc, on voit, Anne souffre terriblement. Pas seulement, elle n'avait pas d'enfant, mais en même temps aussi, elle était la risée de sa rivale. Sa rivale était en train de se moquer d'elle à tout moment, parce qu'elle avait eu beaucoup d'enfants et Anne n'en avait pas. C'était la honte pour Anne, à tout moment. Malgré cela, on voit, Anne n'a pas abandonné le chemin de la Dieu. Anne était toujours aller au temple pour prier Dieu dans sa souffrance. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas la souffrance d'Anne. Le plus important, c'est son attitude à travers une situation de souffrance. Comment elle s'est comportée. Elle allait toujours au temple pour consulter Dieu. Elle allait toujours au temple pour déverser sa peine, sa souffrance aux pieds de Dieu. C'est ça qu'Anne a fait. Et au bout de compte, la parole de Dieu dit, elle a été consolée. Ses pleurs de douleur ont été transformés en larmes de joie. À cause de Dieu, à cause de son attitude, à cause de la direction qu'elle prenait dans sa souffrance, elle allait vers Dieu. C'est ça le plus important dans le récit d'Anne. Et on le voit, après avoir eu son enfant, le premier, son attitude est encore là, la reconnaissance, elle retourne vers Dieu pour aller présenter cet enfant qu'elle vient d'obtenir après mille et une peines. C'est ça. On nous parle de cette famille à cause de cette attitude. Quand nous sommes attachés à Dieu, même dans la souffrance, et quand nous sommes reconnaissants, quand Dieu nous bénit, ce sont des attitudes qui doivent habiter le cœur des enfants de Dieu quand ils sont en famille, quand ils sont en communauté. Une famille chrétienne, une communauté chrétienne doit être habitée par de telles attitudes de cœur où la souffrance, comme dit l'apôtre Paul, ni la mort, ni la souffrance, ni la persécution, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont abandonné le chemin de l'Église, qui ont abandonné Dieu parce que telle personne souffrait, parce que telle personne était malade dans leur famille. Ils ont dit non, on ne veut plus rien savoir de Dieu. Au contraire, dans la famille chrétienne, la famille sainte, la parole de Dieu nous montre que dans la souffrance, notre attitude doit être toujours le recours à Dieu. Et dans l'évangile, c'est la même chose. La parole de Dieu nous montre, en fait, et je vais en tirer les conséquences, la parole de Dieu nous montre justement, regardez, Joseph et Marie, ils font ce qu'ils doivent faire. Ils assument leur responsabilité en tant qu'hommes de foi. En tant qu'hommes de foi, ils assument leur responsabilité. La coutume demandait que, en fait, on devait se rendre pour des fêtes religieuses à telle période au temple. Et ils le faisaient. Non seulement ils le faisaient, ils amenaient leurs enfants pour apprendre cela. Ça, c'est le côté de la responsabilité des parents. Nous devons avoir cela dans nos familles chrétiennes, à assumer notre responsabilité en tant que parents. Ils assument leur responsabilité chrétienne. Ils amènent leurs enfants selon la coutume chrétienne, religieuse, de leur époque. Et remarquez, ils arrivent, après avoir fait un long voyage, là ils prennent, à l'époque c'était des ânes qu'on utilisait pour le transport, et ils font le voyage retour, un long voyage encore, ils retournent chez eux, et là ils réalisent que Jésus n'était pas là. Ils pensent qu'il est parti jouer avec ses amis. Mais au bout de compte, ils réalisent qu'il n'était pas là. Ils font demi-tour, donc un deuxième long voyage pour aller chercher Jésus. Et là, finalement, quelqu'un leur donne une indication qu'on l'a vu dans le temple. Ils vont vérifier effectivement, il était au temple en train de discuter. Première chose, remarquez comment Marie parle. C'est Marie qui prend la parole pour parler à Jésus. Mais c'est intéressant parce que on dit tout le temps, c'est dans le détail qu'on voit parfois l'essentiel. Remarquez comment Marie parle à son fils Jésus. Il lui dit ceci, « Mon enfant, pourquoi nous ?» au pluriel. Il ne dit pas « Pourquoi tu m'as fait cela ?»« Pourquoi nous as-tu fait cela ?»« Ton père et moi, nous avons souffert. »« Ton père et moi. » Marie commence par inclure Joseph dans le processus. Elle aurait pu dire simplement, pourquoi tu m'as fait cela, moi, ta mère? Tu vois comment j'ai souffert. Heureusement que Joseph m'a accompagné, mais non, c'est inclusif. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père en premier et moi en second. C'est Marie qui parle. La considération dans le mariage. L'exemple qui nous est donné dans cette famille, c'est cela. C'est ces attitudes dont il est question dans l'évangile pour parler de la sainte famille. C'est vraiment la considération. Donc, même si Joseph ne parle pas, Marie qui parle en premier met Joseph en considération. Pourquoi tu nous as fait ça? Ton père d'abord et moi, nous avons souffert. Nous avons l'habitude de parler toujours, mon fils à moi. Ça c'est mon petit-fils, c'est bien. Mais c'est important aussi de savoir qu'un enfant ne naît pas seulement d'une mère ou bien d'un père, c'est de deux ensemble, le père et la mère. Dans la famille chrétienne, on doit apprendre à souligner cela. On doit apprendre à souligner cela. Nous avons besoin de nous laisser toucher, rééduquer par la sainte famille, par les attitudes de la famille biblique telle qu'elle est révélée à travers tous ces détails de la sainte famille. Mais revenons-en aux conséquences pour aujourd'hui. En fait, ce que je voulais dire, imaginez qu'ils ont fait un deuxième voyage et là, ils rencontrent leur fils. Et puis là, ils lui disent, mais pourquoi tu nous as fait cela? Et leur enfant, au lieu de s'excuser, tout ce qu'il trouve à dire, mais pourquoi vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? Franchement, sur le plan humain, ça choque, hein? D'ailleurs, la parole de Dieu dit, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ce n'était pas normal. Ils viennent de faire un long voyage, ils doivent encore retourner. Un long voyage, et tout ce que l'enfant Jésus leur trouve à dire, c'est, pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? C'est insultant sur le plan humain. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans notre vie de tous les jours, parce que nous méditons sur la famille, la famille, c'est le lieu où nous apprenons à aimer. Le premier amour, nous l'apprenons dans la famille, mais la famille, c'est aussi le lieu où nous sommes le plus blessés. Quand tu regardes les gens, moi je rencontre beaucoup de gens, j'écoute beaucoup de gens, mais où est-ce que nous sommes le plus blessés? C'est d'abord dans nos familles. Dans nos familles. Vous allez entendre la personne qui va dire, bon, moi c'est vraiment depuis mon enfance, ma mère me disait ceci, me faisait ceci. La personne qui s'est pliée en quatre pour t'aimer, c'est la même personne qui va te blesser. Ton père, ben, tu étais trop attaché à ta mère, alors ton père commençait à devenir jaloux. Alors il commençait à des paroles pour te blesser, pour te minimiser, pour te mépriser. Et tu vas être blessé par ces paroles. Mais parfois, comme enfant, les enfants grandissent. Il y a un enfant qui me disait, mais papa et maman, ils sont toujours en train de parler à voix haute. À ce moment, l'enfant ne comprenait pas qu'il se chamaillait. Mais l'enfant enregistre tout cela. Ils entendent tout le temps, ce n'est pas son problème, mais les parents, leur problème à deux, ils les transfèrent au lieu public où l'enfant est impliqué dans ce problème. Et l'enfant n'a pas encore la capacité de gérer de tels problèmes. Et il les encaisse, et en grandissant, ça devient une bombe à retardement, et l'enfant est blessé. J'ai reçu un gars de 54 ans ici, dans la région de Plantagenêt. Cet enfant n'est pas capable d'aimer. Les femmes veulent s'approcher de lui, mais il a toujours peur. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi tu développes cette peur? Mais là, je dis, raconte-moi ton histoire. Et il commence à me raconter l'histoire de son père et de sa mère. Comment il s'est changé de parole et comment à un moment donné même, comment le papa dit, d'ailleurs, j'étais marié par hasard et le soir, je ne t'ai jamais aimé. Bon, voilà. L'enfant a encaissé tout cela et il s'est identifié au problème de ses parents. Et il n'est pas capable, à 54 ans, il n'est pas capable d'aimer. Les gens qui se sont pliés à quatre pour l'aimer, ce sont les mêmes qui l'ont blessé pour la vie. Nos familles sont des lieux où nous avons des blessures les plus profondes. Tu vas voir dans un couple, l'homme et la femme, où les gens sont les plus blessés, c'est dans les familles, dans le couple. Le couple entre eux, les parents contre les enfants contre les parents. Encore cette semaine, une mère qui est venue verser ses larmes dans mon bureau. Elle envoie un bouquet de fleurs à sa fille pour demander pardon parce qu'ils avaient eu de la chicane pendant longtemps. Ils ne se parlaient pas pendant longtemps. Et là, sa fille lui téléphone, lui dit, tu sais, si tu avais déjà acheté une parcelle pour ta tombe, je serais allé déposer ton bouquet de fleurs sur sa tombe. Je serai allé déposer ton bouquet de fleurs sur ta tombe. Ça veut tout dire. Où sommes-nous blessés? Dans nos familles, par ceux-là même qui devaient nous aimer. Et c'est ça notre réalité. Je suis en train de vous dire que parfois j'entends les gens me dire « Je ne viendrai plus à la communauté, à l'église, parce que tel m'a blessé. » Laissez-moi vous dire, la communauté que nous formons aussi fait partie de cette famille humaine que nous sommes en train d'expérimenter comme dans nos familles. Exactement comme dans nos familles naturelles, nous pouvons, ici dans la communauté aussi, nous blesser les uns les autres. À cause de cela, nous pouvons venir avec notre joie, notre bonheur, notre goût de servir dans le bénévolat, mais ceux-là même que nous allons servir vont être les mêmes qui vont nous blesser. C'est comme ça dans la vie. Sur le plan naturel, c'est ça que nous expérimentons. Je disais ce matin, moi j'ai fait le choix d'être joyeux, mais si je devais dépendre simplement de blessures, je ne serais jamais parmi les gens joyeux. Parce que je vous montrais toutes les lettres que vous m'écrivez, simplement pour me dire que je prêche longtemps, je n'aurai plus jamais la joie. Et c'est là, nous sommes tous blessés, vous voyez. Nous sommes tous blessés. Quelqu'un, au lieu de venir juste dans mon bureau me dire, moi je ne veux pas entendre tes homélies, mais il m'écrit une lettre méchante. On se blesse. Qui nous blesse? Ceux-là même qu'on sert. C'est ça la communauté, c'est ça la famille. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à vous servir. Ça ne m'empêche pas de continuer à prier pour vous. Ça ne m'empêche pas de continuer à prêcher. Sinon, je fermerai, je viendrai, je lis l'évangile, je veux m'asseoir là-bas. Chacun médite et puis nous continuons la messe. Mais j'ai fait le choix. J'ai dit non, j'ai été ordonné. Le prêtre, c'est d'abord la parole qu'il doit annoncer. Même si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, un jour peut-être vous penserez à moi. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est la communauté, c'est la famille, c'est là où on se blesse. Mais malgré cela, vous voyez, Dieu ne s'empêche pas de venir nous visiter comme famille, comme communauté. Ça n'empêche pas Dieu de venir nous visiter. Parce qu'il a la parole qui guérit. C'est pour cela qu'il peut venir nous visiter. Il a la parole qui guérit. Il est souverain. Il peut prendre ce qui blesse et le transformer en ce qui guérit. Et alors nous commençons à nous demander pardon et nous commençons à nous donner le pardon les uns par rapport aux autres. Et le pardon est plus fort que nos blessures. Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Voilà pourquoi nous avons besoin, comme Elkana, de retourner vers Dieu, comme cette famille, d'aller au temple vers Dieu. Nous avons besoin de retrouver, donner à Dieu la place centrale pour que nos familles deviennent des familles saintes. Non pas à cause de nos qualités, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de notre nature, mais à cause de la présence de Dieu. C'est lui qui vient sanctifier ce qui est souillé. Si nous éloignons Dieu dans nos familles, si nous éloignons Dieu dans notre communauté, il n'y a plus rien de saint en nous. Si on enlève Dieu dans cette famille, il n'y a plus rien de saint. Parce que c'est lui qui sanctifie. C'est-à-dire c'est lui qui rend saint pour qu'on appelle sainte famille. Pour qu'on appelle le peuple saint. Le peuple juif qu'on appelait le peuple saint, c'est parce que Dieu était avec eux qu'ils étaient un peuple saint. Quand nous enlevons Dieu dans notre vie, il n'y a plus rien de saint en nous. Il n'y en a plus. Notre sainteté ne dépend pas de nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Notre sainteté dépend d'abord de la place centrale que nous donnons à Dieu. Quand nous avons donné cette place, alors il façonne tous les restes de notre vie et nous tendons et nous aspirons à faire le bien, comme on avait dit à Noël, un peuple ardent à faire le bien. Nous allons prier aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour demander à Dieu qu'il nous donne cette grâce de lui accorder toujours la place centrale dans notre vie, dans notre couple, dans nos familles et dans notre communauté. Nous allons prier pour les familles qui sont en difficulté. Il y en a tellement de familles recomposées, il y en a tellement autour de nous, de familles malades, il y en a tellement, de familles révoltées, il y en a tellement autour de nous, de familles blessées, il y en a tellement, et de familles que nous avons blessées, il y en a tellement autour de nous, pour demander d'abord pardon à ce Dieu et pour l'inviter à venir guérir nos blessures et pour nous réapprendre à aimer comme lui aime.